C'est important. On parlait de l'unité ce matin, mais c'est important d'être unis ensemble et d'avancer pour la même cause. Et nous, c'est vraiment les jeunes qui nous tiennent à cœur. Et encore pendant plusieurs années, c'est ce qui va me tenir toujours à cœur. Parce que pour moi, ce n'est pas la génération du futur, mais c'est la génération de maintenant. Ils ont un impact maintenant sur ce qui se passe. Ils ont des dons que Dieu leur a donnés. Et c'est de notre responsabilité de les emmener. Et vous savez, l'image d'être notre plafond doit être le plancher des autres. Et on doit être le plancher de nos jeunes. Il faut les élever, il faut les emmener dans les promesses que Dieu a dans leur vie. Il faut travailler, il faut investir dans leur vie. Et c'est comme ça que ça va changer la région. C'est comme ça qu'on va atteindre tout le monde. Notre jeunesse est importante. Nos enfants sont importants en haut. Et c'est un privilège que j'ai de pouvoir travailler avec eux, d'être là avec eux, de m'investir dans eux. Et merci, gang, les jeunes. Moment d'émotion. Amen. C'est drôle comment Dieu fait les choses. Ce matin, tu sais, quand on prépare un message, tu te demandes toujours, « C'est-tu correct? C'est-tu, en es-tu dans la bonne direction? Je m'en vais-tu à la bonne place? » Et ce matin, je fais ça à l'ancienne, là, j'ai amené ma vieille Bible. Et tout le long ce matin, même la Sainte-Seine, quand je me suis levé ce matin, j'ai dit, « Ah, faut faire ça durant la louange. » Et le chant qui a été chanté, OK, il n'y a eu aucune coordination là, entre moi et Martine ce matin dans la décision de chant. Je suis arrivé un matin puis je leur ai dit, oubliez votre chant vos chants de Sainte-Seine, je vais le faire durant la louange. Et le chant que Martine elle me dit, bon, on va le faire durant le chant de Dieu de miracle. Et c'est vraiment ce qui était chanté dans ce chant-là, c'est vraiment ce que j'avais à cœur ce matin quand je me suis levé. Et de voir comment le Saint-Esprit travaille, comment le Saint-Esprit connecte, fait une unité entre nous. Et en plus, le chant de l'offrande résume assez pas pire ma prêche. Okay? Si vous l'aviez bien écouté, le chant de l'offrande, ça va dans le même thème que ma prêche. On va prendre un peu d'eau. Amen. Bon, on est prêt? On part. Je pourrais poser la question et dire, est-ce que quelqu'un sait quel verset je vais utiliser ce matin? Ah, Nathan, il dit oui, il sait. OK. Les gens, habituellement, le connaissent aussi. C'est un verset qui a eu un impact dans ma vie, qui a changé ma façon de voir Dieu. Qui a changé ma façon d'avoir ma relation avec Dieu. Et ce verset-là, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » On le voit plusieurs fois dans la Bible. On le voit dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome. On le voit dans l'Évangile de Matthieu, dans l'Évangile de Luc, dans l'Évangile de Marc. Et je me suis dit, tu sais, souvent, quand on voit un verset qu'on voit un peu partout, ben, je me dis, il y a quand même une importance. C'est un verset qui est important. Et pour moi, c'est comme une base de ma vie chrétienne, de ma relation avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Toute ta force. C'est important. Vous savez, l'amour du Père, on en a souvent parlé. On en a parlé beaucoup dans les dernières années. Cette relation père-fils avec Dieu ou fille avec notre papa Dieu. Et cet amour-là qui se qui se crée avec Dieu le Père nous emmène à vivre des choses qui sont extraordinaires. Je ne sais pas si vous, dans votre vie, vous vivez des choses qui sont extraordinaires avec Dieu, mais moi, je vis des choses qui sont extraordinaires avec Dieu. Et j'ai appris que c'est super d'avancer en avant, de recevoir la prière, c'est bon, je ne dis pas que ce n'est pas bon, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a rien de mieux que de rentrer dans une relation d'intimité avec Dieu. Il n'y a rien de mieux que de rentrer dans sa présence, comme qu'on chantait ce matin, comme qu'on parlait ce matin. Il n'y a rien de mieux que ça. De prendre un temps, de s'arrêter et d'aller dans la présence de notre Père. Il n'y a rien de mieux que ça. Dans la présence de notre Père, il y a de l'amour. Dans la présence de notre Père, il y a de la joie. Dans la présence de notre Père, il y a la sécurité. Dans la présence de notre Père, il y a de la guérison. Et souvent, okay, mes notes, on les oublie, je suis parti ailleurs. Et souvent, on a une image de notre Père qui est peut-être faussée par le Père qu'on a eu quand on était, par notre Père naturel. Okay? Même moi, mes enfants, j'ai mes deux filles ici en avant, là, même moi, en tant que Père, je suis loin d'être parfait. Je pourrais leur demander de venir témoigner sur mes imperfections, puis ça serait les mieux placés avec mon épouse pour les dire. Mais notre Papa au ciel, lui, est parfait. Et si je veux m'approcher de cette perfection-là du Papa au ciel, envers mes enfants terrestres, je dois entrer dans sa présence pour apprendre de lui. Je dois entrer dans son amour pour apprendre de lui. Et la seule façon de rentrer et d'être en connexion avec Dieu, c'est d'être, de prendre du temps avec lui, de me connecter avec lui, qu'il soit numéro un dans ma vie. S'il n'est pas numéro un dans ma vie, je n'arriverai jamais à retransmettre cet amour-là aux gens qui m'entourent. Et c'est de notre responsabilité en tant que parents, mais de chacun de nous, d'entrer dans la présence de Dieu et d'aller recevoir tout ce qu'il y a pour nous, l'amour qu'il y a pour nous. Dans les temps qui sont faciles, okay, où est-ce que ça va super bien dans notre vie, mais aussi dans les temps quand ça ne va pas bien. Quand c'est la joie, quand c'est la tristesse, en tout temps, dans n'importe quelle situation, on doit entrer dans la présence de notre Papa. La meilleure façon de recevoir une guérison, c'est d'aller dans la présence de Papa. C'est la meilleure façon. On a besoin de la communauté, on a besoin des uns des autres. Mais dans la présence de Papa, il n'y a rien mieux que ça. Le jour où j'ai compris ça, ça a amené une liberté et une joie qui est dure à décrire. Vous savez, j'ai remarqué une chose à la maison. Quand je suis à la maison, quand je me lève le matin, ou que je finis ma journée et autres, que ça a été plus ou moins bien, et que je me sens, tu sais, tu n'as pas le goût de te faire déranger, tu n'as pas le goût, et que je me lève avec cette attitude-là, je sens que la maison, même mes enfants, les gens dans la maison, l'atmosphère est différente. Et pour changer cette atmosphère-là, quand je me sens comme ça, je vais me connecter avec Dieu. Je vais prendre un temps avec lui. Et lorsque je prends un temps avec lui, juste tranquille, avec la louange et autres, que je me mets à l'adorer et que je fais juste entrer dans sa présence, l'atmosphère change. L'attitude de mes enfants change. L'ambiance de la maison change. Et ce n'est pas parce qu'eux ont fait quelque chose, c'est tout simplement que moi, je me suis connecté avec le cœur du Père et que je suis allé chercher son amour. Et ça transforme une atmosphère. Si des fois chez vous c'est chaotique ou que vous sentez que rentrez dans la présence de Dieu, et vous allez voir, ça va changer l'atmosphère. Parce que moi, je l'ai vécu. Amen. Ma fille, elle m'a dit un matin, tu n'auras pas besoin de tes feuilles, papa. Je le sais. Ah, ils me connaissent, hein? Amen. On va prendre le temps quand même de lire dans Marc. Je me suis fait des petits trucs. Yeah. Marc 12. On va lire le verset 28, 29, 30, 31 pour commencer. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Je vous mets un peu dans le contexte de où ce que, de ce que ça, le temps que ça se passe. Okay, Jésus il est dans une série de questions là, qu'on y pose, où ce qu'on voit les pharisiens et les sadducéens, je l'ai pratiqué hier, pour pouvoir bien le dire, qui sont là et ils essaient de piéger un peu Jésus. Ils veulent éprouver Jésus, ils veulent le piéger, ils veulent essayer de discréditer, si on peut dire ça comme ça. Et Jésus est rendu à sa troisième question, et là, les pharisiens envoient un scribe, qui est quelqu'un qui connaît très bien la parole de Dieu et tout ça, c'est un docteur de la loi. Il envoie un scribe qui, selon ce qu'on dit, était plus modéré. Donc, mais il est quand même allé, quand on lit dans Matthieu, pour éprouver Jésus. Et là, il pose cette question-là. Et Jésus répond ce qu'on vient de lire. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme. » Et je me suis arrêté puis je me suis dit « OK, c'est bon. » Je l'utilise souvent, ce verset-là. « Tu aimeras le Seigneur. » Mais souvent, j'utilise simplement les deux versets qu'on connaît. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Souvent, on extrait de la Bible des parties de versets puis on oublie de regarder l'ensemble de qu'est-ce qui se passait. Et pourquoi Jésus a répondu ça? Il n'a pas choisi cette réponse-là au hasard, là. Et c'est là que, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que dans Deutéronome, on retrouvait exactement la même chose. On va tourner dans Deutéronome. C'est drôle, avant, quand on tournait, j'entendais les pages qui tournaient. Ça te disait si les gens avaient eu le temps de tourner. Mais là, avec les cellulaires, ça ne marche plus. Sinon, il est marqué en arrière. Deutéronome, attendez une minute. Je vais vous donner la référence exacte. 6, verset 4, 5. On va lire ça pour commencer. C'est écrit, Deutéronome 6, 4. Tu aimeras l'Éternel ton... 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce qu'on voit ici, c'est que Jésus est en train de citer un verset de l'Ancien Testament. Okay, pour eux, c'était la Torah. Il est en train de citer la Torah. La Torah, c'est les cinq premiers livres des évangiles, pas des évangiles, mais de la Bible. Et Jésus répond avec quelque chose que eux connaissent, que les pharisiens connaissent. Il répond avec ces versets-là. Et je me suis dit, OK, c'est super. Parce qu'on voit souvent Jésus répondre, on se souvient dans le désert quand il était tenté, ce qu'il a dit au diable, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Vous vous souvenez de ça? OK? Jésus citait souvent la parole de Dieu. Il ne choisissait pas ça au hasard. Et là, je me suis penché là-dessus et j'ai continué mes recherches. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand Moïse a donné cette partie-là dans Deutéronome, c'est devenu ce qu'on appelle le Shema, qui est le Shema juif. C'est une prière. Certains disent que c'est une prière, il y en a d'autres que c'est plus vers un credo ou quelque chose, mais c'est quelque chose que les Israélites ont commencé à répéter matin et soir. Vous savez, vous avez sûrement déjà vu l'image des Juifs quand ils ont une petite boîte sur le front, okay, qui s'attache là, on appelle ça le tefillin, si je ne me trompe pas. Et dans cette petite boîte-là, il y a ce verset-là. Il y a les deux versets qu'on vient de lire. C'est ce qu'on retrouve dans cette petite boîte-là. Et donc, ça avait une importance pour les Juifs, cette parole-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et la première partie, écoute Israël, l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tout ça avait de l'importance. Donc, Jésus n'avait pas choisi sa réponse au hasard. Ce n'est pas une réponse, OK, je vais dire ça, puis c'est super. Non. Jésus avait été chercher quelque chose qu'il connaissait. Et quelque chose que chacun des enfants juifs apprenait dès leur jeune âge, c'était ça qu'ils apprenaient, le Shema. Il y a d'autres parties de Deutéronome qui se retrouvent. Il y a trois paragraphes exactement. Et le premier paragraphe du Shema, c'est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, ton cœur. » Et ça, dès leur jeune âge, ils apprenaient ça. Chaque enfant le savait par cœur. Jésus, ça lui a été enseigné par son père Joseph, son père terrestre. Okay, on présume que Joseph y a montré. Parce que c'était dans la coutume et dans la culture juive de faire ça. De connaître ces versets-là. Et là, je n'ai pas arrêté mes recherches-là. Je me suis dit, OK, c'est bon. Je me suis dit, mais pourquoi le verset 4 de Deutéronome ou le verset qu'on retrouve aussi dans Marc 12, 29? Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Quand on prend le temps de regarder et de lire ce verset-là, ce que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est que quand tu prends le premier mot, OK, le premier mot qui est, je vais juste écoute, quand tu le prends dans le texte hébreu original, la dernière lettre de ce mot-là est en gras. OK? Et c'est, je vais juste me repérer sur mes notes. Ce ne sera pas le lion, on va le trouver. OK, j'allais ici. OK, le premier mot, c'est Shema. OK, Shema veut dire écoute. Dans le mot Shema, en français, on dit Shema et le A est en gras. Et lorsque on regarde le dernier mot dans le texte original en hébreu ici, et c'est l'avant-dernier, seul, OK, et tu prends la dernière lettre qui, elle aussi, dans le texte original est en gras, on arrive avec le mot Echad. Et si tu prends ces deux lettres-là, OK, vous me suivez? On prend ces deux lettres-là et on les met ensemble, ça forme un mot qui veut dire témoin, qui est aide, qui veut dire témoin. Là, vous allez dire aussi que ça en va. Attendez, ça va pas long. On va y arriver. Jésus ne dit jamais rien pour rien. Et on sait tous que souvent dans les textes, on voit le mot témoin, vous allez être mes témoins, vous allez à travers les nations et tout ça. Ici, ce qu'ils sont en train de dire et ce qui était là, c'est que nous sommes des témoins d'un Dieu unique, d'un seul Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu que notre Dieu. C'est ce qu'ils disent quand ils disent cette première phrase-là. C'est ce que Jésus était en train de répondre aux scribes. Il est en train de dire, écoutez, guys, là, il n'y en a pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu-là, c'est mon Père qui est au ciel. Il y en a juste un, il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez chercher n'importe où, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. C'est le seul qui est éternel. C'est le seul qui est vivant. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Et là, ensuite, on tombe dans « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur ». Une fois que tu as compris que Dieu est éternel, qu'il est le seul, que tu ne peux pas adorer autre que lui. Ça revient à ce que je disais au début. Il faut qu'il soit numéro un dans ta vie. Parce que c'est le seul qui peut faire des guérisons. C'est le seul qui peut changer nos vies, transformer nos vies. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez essayer ce que vous voulez, il n'y en aura pas d'autre. Parce que c'est le seul. Et ce que Jésus est en train de dire aux scribes. Après ça, il leur dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Quand on lit ce verset-là, OK, on n'est pas en train de dire avec un petit peu de ci, un petit peu de ça, cette partie-là de mon cœur, cette partie-là de mes pensées, cette partie-là de ma vie, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Ça veut dire ton être tout entier. Tout, tout, tout à Dieu. Tout vers lui. Pas un petit peu. On a toutes des choses dans nos vies qui, des fois, on essaie de remplacer Dieu par ça. On a toutes des choses qui viennent prendre la place de Dieu dans notre vie. Ceux qui me connaissent se souviennent que dans le passé, j'ai dit « le hockey prenait une grande place dans ma vie ». D'écouter les matchs canadiens, ceux qui se souviennent, ça fait plusieurs années de ça, ce qui ne me rajeunit pas. Mais ça prenait tellement de place dans ma vie que je coordonnais mes activités et les choses que je faisais avec les games que le Canadien jouait. Je n'allais pas à des réunions de prière. Je cancellais des soirées avec des amis, des trucs comme ça, parce que ça avait une importance pour moi. Et je ne dis pas que c'est pas correct. Je ne dis pas que c'est pas correct d'écouter le hockey, là. Au contraire. Okay, je suis un fan fini du Canadien. J'ai transmis ça à ma fille. Mon gars ne voulait rien savoir, fait que je l'ai transféré à ma fille, qui est une fan finie aussi du Canadien. Mais je me suis dit, ça ne peut pas prendre la place de Dieu dans ma vie. Parce que je suis en train de me faire voler les bénédictions. Je suis en train de me faire voler le plan que Dieu a pour ma vie. Okay? Puis là, je parle de mon expérience à moi, mais il y a toutes sortes de choses. Il y a d'autres choses dans ma vie qu'il faut que Dieu vienne travailler et vienne m'enlever. Parce qu'il y a des choses que je les garde parce que c'est précieux ou c'est un faux. Tu sais, c'est des faux diamants, dans le fond, là. Des faux trucs dans notre cœur qu'on garde et qu'on ne veut pas remettre à Dieu. Est-ce que j'ai arrêté de regarder le hockey? Non. Moi et ma fille, on écoute ça jusqu'à minuit et demi quand ils jouent le soir. Même si elle a de l'école le lendemain, puis moi je travaille à 5h30, c'est pas grave. On aime ça quand même. OK? Mais ça n'a pas la même priorité dans ma vie. C'est deuxième. Si j'ai autre chose, c'est pas grave. C'est pas grave. OK? Parce que c'est plus rendu une priorité, parce que Dieu est ma priorité dans ma vie. Et c'est ça l'importance. Est-ce que tout est mauvais? Non. Mais tout devient mauvais si ça prend la place de Dieu dans ta vie. Si ça enlève Dieu numéro un dans ta vie, ça devient mauvais. Vous m'avez déjà entendu dire que ma femme est deuxième dans ma vie. Parce que Dieu est premier. Dieu est premier, ma femme est deuxième, puis elle le sait. Puis l'affaire, c'est qu'elle aussi, c'est la même affaire. Je suis deuxième dans sa vie, puis Dieu est premier. Et qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée que quand elle va dans la présence de Dieu et qu'elle reçoit l'amour de notre papa, puis que moi, je vais dans la présence de Dieu puis je reçois l'amour de notre papa, on est tellement plein d'amour qu'on s'aime encore plus. On s'aime encore plus que la journée qu'on s'est dit oui. On s'aime encore plus que la première fois que je l'ai vu ici à l'église. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Et j'ai saisi, et ce n'est pas juste une compréhension, mais c'est une révélation qui passe d'ici au cœur, que dans la présence de Dieu, tu reçois tellement d'amour de papa que tu veux en déverser sur tout le monde autour. Et les premiers qui en héritent, c'est mon épouse et mes enfants. Et ça, je trouve ça que c'est une bénédiction. Et c'est autant vrai que quand la situation dans la, qui arrivent toutes sortes de situations, comme Solène parlait tantôt, durant l'offrande, s'il y a des trucs qui arrivent, il y a une tempête qui vient, ça t'arrache une partie de ton toit. Et là, tu dis, OK, comment je réagis? Je capote, puis là, je viens en colère contre le vent. Puis ça y fera rien. T'es là la nuit, puis là, t'entends... Ta femme a dit, hey, c'était quoi ça, le toit? OK? Je dis, OK. Et là, tu sors à 3 heures, tu vas voir... Je vous conte une histoire vraie qui s'est passée cette semaine. Il y a quelques jours. Et là, tu sors dehors à 3 heures du matin, tu ramasses tes petits bouts de bardeaux, tes affaires en main, tu vas au milieu de la rue, tu regardes ton toit. Tu dis, bon, va donc te coucher. Je suis allé me coucher, on règle ça une autre fois. Tu regardes la température, puis tu te dis, OK, super. Et là, je me suis dit, OK, comment je peux transformer ça en quelque chose qui est une bénédiction? Dieu, aide-moi, parce que je sais que mon tempérament, c'est pas beau des fois, tu sais, des situations comme ça. Mes enfants sont témoins. Et je me suis dit, non, il faut que... Papa, là, je vais me coucher, là. D'un matin, on réglera ça, là. Mais durant la nuit, là, fait qu'il pleut pas trop pour que ça tombe dans la maison puis ça brise trop d'affaires. Fait que... Puis c'était le pignon, en plus, là. C'est le dessus, là. Fait qu'il y a une belle craque que l'eau peut rentrer. Et là, je me suis dit, aïe, aïe. Ma fille m'a déjà dit qu'elle voulait aller sur le toit de la maison. J'ai dit, quelle belle opportunité de l'emmener sur le toit de la maison. Fait que le samedi, je suis arrivé, on a mis l'échelle, ma fille a dit, je veux aller avec toi, papa, super, viens, on va aller réparer le toit, on monte ensemble sur le toit. Ce que j'entends pas, ma deuxième fille qui disait, je veux y aller moi aussi. Bon, on s'est retrouvés, je me suis retrouvé avec les trois enfants sur le toit, et ensemble, on a réparé le toit. Et on a eu un bon temps, on s'est amusé, on a ri, on a eu de la joie et tout ça. Comment changer une malédiction en bénédiction? Notre attitude, mais la présence de papa. Je sais que si je recule quelques années en arrière, ça n'aurait pas été ça. Mais aujourd'hui, je sais que Dieu est venu enlever des racines, je lui ai remis des choses, et c'est dans sa présence que j'ai trouvé cette guérison-là exactement, puis l'amour de papa. Mais l'histoire, c'est pas fini là. Okay, on a réparé le toit, je leur ai montré comment faire. Et après ça, je regardais mon cabanon et une partie du toit du cabanon aussi, le bardeau était parti. Et là, je leur ai dit, vous montez les trois en haut et vous allez me réparer ça. Moi, je reste en bas. Et les trois enfants sont montés en haut et ils ont réparé mon bardeau. Toute cette histoire-là, pour vous dire qu'on va continuer à lire dans Deutéronome. Non, mais vous allez voir le lien, là. Il y a un lien. Come on. En passant, ils ont fait une super belle job. Ils sont super bonnes. Fait que d'enseigner à nos enfants, ça nous sauve l'ouvrage aussi. J'ai plus besoin de réparer le toit, puis j'ai plus besoin de changer mes pneus, c'est ma fille qui le fait. Fait que ça, c'est bon, hein? C'est marqué après ça, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et en tout cas, j'ai tout mêlé, mais c'est ça. OK, on va à 6. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. 7. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu iras te coucher et quand tu te lèveras. Ma responsabilité en tant que parent, c'est d'inculquer ça à mes enfants. Comme que j'ai fait par rapport au toit, okay, vous voyez le lien là, que je leur ai enseigné comment réparer un toit, qui ont été capables de le mettre en pratique après, ma responsabilité, c'est de l'inculquer à mes enfants d'aimer Dieu. Dans toutes les situations, dans tout ce qu'ils vivent. Est-ce qu'ils vivent des difficultés, mes filles? Absolument. Absolument. Mais ma responsabilité, c'est de dire, c'est vrai que tu vis des difficultés. C'est vrai qu'il t'arrive des choses. C'est vrai que moi, je ne peux pas intervenir dans tout ce qui se passe. Parce que tu dois apprendre à rentrer dans la présence de Dieu. Tu dois apprendre à aller vers papa et de lui faire confiance. De virer ton cœur vers lui. Et c'est là-dedans que tu vas trouver la paix. Est-ce que la tempête va s'arrêter nécessairement? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais notre attitude va changer. Notre cœur va changer. Et on va trouver notre force dans les bras de notre papa. dans les bras de Dieu. Et c'est là que tout ce verset-là prend son importance, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de notre tête, de notre force. Comme mes enfants m'aiment de cette façon-là, en tout cas, je pense, OK, la même façon qu'on doit aimer Dieu. On doit être près de lui. Et c'est vraiment l'image que j'avais ce matin quand que j'étais en avant ici. Je n'ai même pas demandé à mes filles de venir s'asseoir à côté de moi. C'est eux qui ont décidé par eux-mêmes de s'asseoir à côté de moi. Et je me suis dit, aïe, aïe, je suis entouré de mes enfants. Je suis entouré de mes deux filles. Pendant que mon garçon aide sa maman à la garderie avec les petits, je suis entouré de mes deux filles qui sont là à côté de moi et qui peuvent vivre ce que je vis, qui sont présents à côté de moi. Et Dieu veut qu'on veut la même chose. Il veut qu'on se tienne à côté de lui et qu'on vive dans sa présence, d'être là. C'est des beaux moments, ça. Moment d'émotion, non. c'est des beaux moments de vivre ça avec tes enfants, d'être là, de partager des passions communes. De vivre ça ensemble, c'est des moments que tu partages. Ce que je disais tantôt, on partage la même passion, moi et ma fille, Chloé, qui est le hockey, elle connaît quasiment mieux les joueurs que moi aujourd'hui, elle connaît leur poids, leur taille, leur nom, le taux de diabète que Domi a, elle connaît tout. OK? Des fois, je pense que je suis rendu troisième, tu sais, là, dans sa liste. Non, c'est pas vrai. Mais, OK, c'est celle qui est rouge, là. Mais on vit des beaux moments ensemble. Quand il est rendu minuit et demi, puis qu'on est assis ensemble, puis que je dis, hey, demain, t'as de l'école, c'est super. Ouais, ouais, ça va être correct. Ouais, je suis capable de la tenir. Puis je sais qu'elle fait sur le même style de beat que moi, là. Fait que je sais qu'elle est capable de passer à travers. Et que là, le Canadien marque en prolongation. Et que là, ensemble, on est là. Puis il faut se taire parce que les autres dorment, bien sûr. OK? C'est des beaux moments qu'on vit ensemble. Et c'est le fun. Et on peut inclure Dieu là-dedans. On peut inclure la présence de Dieu là-dedans. Okay? On est allé ensemble au Centre Bell pour sa fête parce que c'est le cadeau qu'elle voulait. Puis on a passé un moment de père et fils ensemble. On a mangé au restaurant ensemble. On a pris un temps ensemble. Et ça crée des liens ensemble. Ça crée une unité commune qu'elle est prête à se battre pour moi. Puis moi, je suis prête à me battre pour elle. Qu'on est prêt à serrer puis à être l'un et l'autre ensemble là-dedans. Je suis prêt à aller quand elle vit des situations difficiles et l'inverse aussi parce que ça crée cette relation-là. Et avec Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose quand on est dans sa présence. Il veut partager nos passions qu'on a et on veut partager ses passions qu'il a. Dieu nous aime tellement que ce verset-là prend une importance. Il faut l'avoir sur notre front, il faut l'écrire sur nos linteaux de porte. C'est ce que ça dit dans Deutéronome, quand tu continues de lire. Il faut que ça soit marqué. Il faut le marquer sur notre cœur. Il faut que ça devienne plus qu'un verset, il faut que ça devienne une révélation. Parce que ça transforme nos vies. On va retourner dans Marc. Bon, je viens d'arracher mon papier. Dans Marc, et on va voir ce que le scribe a dit à Jésus après. Marc 12, ouais, c'est ça, verset 32. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et après ça, plus personne n'y a posé de question. Là-dedans, on voit une chose. Ça dit que le scribe lui a dit que c'est plus important, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Et on sait que les pharisiens étaient des gens que la loi, ils la suivaient à la lettre. Que c'était une importance. Les sacrifices, les holocaustes et tout ça, c'était important de tout faire ça et ça avait une importance dans leur vie. Il y avait 638 dans ces environs lois puis trucs qu'ils devaient suivre. Ça en fait pas mal. Pour finir par dire, écoute, ce que tu viens de dire, là, ça vaut plus que tout ça. D'aimer Dieu, ça vaut plus que tout ça. Et déjà, juste Jésus, en répondant ça au scribe, sa façon de voir les choses a commencé à être transformée. Ah, c'est synchronisé. Toute sa pensée commençait déjà à être transformée. Puis Jésus lui dit, t'es pas loin du royaume de Dieu. T'es pas loin. Il faut que ça passe de là à là. Et tu vas avoir atteint le royaume de Dieu. Il faut que ça passe d'ici à là. Et quand Jésus dit ça au scribe et il répond à ces questions-là, on sait que dans les chapitres suivants, bon, c'est là que Jésus va se faire crucifier, il va mourir et qu'il va ressusciter. Il connaissait ce qui s'en venait. Il connaissait sa part de responsabilité dans ce que le Père lui demandait de faire. Il connaissait ça. Il disait, on va aimer Dieu de tout notre cœur. Et je vais être prêt à faire tout ce que papa veut que je fasse. Je vais être prêt à me sacrifier pour le reste de l'humanité, pour faire les volontés de mon père. Parce que cette intimité-là, il savait, Jésus, que ça ne resterait pas là. Il savait le prix qu'il avait à payer. Mais comment Dieu est capable de transformer une situation de malédiction en bénédiction. Et que suite à son sacrifice, Dieu l'a ressuscité. Dieu leur amenait des morts et s'en amenait la bénédiction sur tous, sur chacun de nous. Jésus savait c'était quoi le prix à payer, mais il savait qu'en payant le prix, il y avait de quoi d'encore plus grand qui s'en venait. Et dans nos vies, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on n'est pas prêt à laisser à Dieu parce que ça nous coûte beaucoup. Ça peut nous coûter des relations avec certaines de nos amis. Ça peut coûter l'abandon de certaines de nos passions. Ça peut nous coûter peut-être même des rêves qu'on tient, qu'on a à cœur. Ça se peut. Et qu'on n'est pas prêt à payer ce prix-là. Ou de dire, ben, si je remets ça à Dieu, ça va faire tellement mal ce que j'ai vécu, que je n'ai pas le goût de souffrir et que je n'ai pas le goût de vivre ça. Bien, dans cet amour-là que papa a pour nous autres, de l'aimer autant que ça, il y a toutes les promesses qui viennent après. Après la tempête, il fait beau, il y a le soleil. Il faut nettoyer nos cœurs, il faut laisser papa venir entrer et d'être le numéro un dans notre vie. Ça a un coût. Et souvent aussi, ce qu'on oublie, c'est que ça a un coût pour les générations qui nous suivent. Ça a un coût de ne pas aimer Dieu de tout notre cœur, pour les gens, pour nos fils, nos filles. Nos fils, nos filles terrestres, mais nos fils, nos filles spirituelles aussi. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix et à aimer Dieu de tout notre cœur, et de lui remettre tout notre cœur. Je trouve que le prix pour moi est trop dur à payer de ne pas aimer Dieu et de ne pas tout lui remettre parce que je veux que mes enfants aient sa bénédiction. Je veux que mes enfants héritent de cet amour de Dieu. Donc, je suis prêt à tout y laisser. Il peut venir chercher ce qu'il veut, il peut prendre ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Mais je sais que, en aimant Dieu de tout mon cœur, ça va avoir une répercussion sur mes enfants terrestres, mais aussi sur mes enfants spirituels qui sont la jeunesse et autres. c'est pas un jeu. C'est une réalité dans laquelle on vit. Et le prix est trop grand à payer de ne pas aimer Dieu. Je vais lire Deutéronome 30. Je vais terminer bientôt. J'ai faim. Non, c'est pas... Une blague. Mon ventre commence à parler plus que je l'entends. Non. OK. Deutéronome 30, 15 à 20. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. C'est lui qui est dans ta vie et qui prolongera tes jours, pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. On voit ici que ça avait une importance d'aimer l'Éternel parce que ça avait une répercussion sur la descendance. Ça avait une répercussion sur les fils, sur l'héritage qui était pour laisser. Et c'est de notre responsabilité d'aimer Dieu de tout notre cœur parce qu'on veut laisser un héritage à nos enfants, aux générations qui nous suivent. Quand on choisit d'aimer Dieu, de s'attacher à lui puis d'obéir à sa voix, à ses commandements, on choisit la vie, le bien, la bénédiction pour nous puis notre postérité. Et c'est de là que tout ça prend son importance. C'est de là que tout le texte, tous les versets qu'on vient de lire ce matin prend son importance. De se rappeler que ce n'est pas juste une question pour nous, mais c'est une question pour les générations qui s'en viennent après. Nos fils, nos filles, nos petits-fils, petites-filles, petits-fils, et ainsi de suite. Et ça prend toute son importance. Est-ce qu'on est prêt à se laisser venir enlever des trucs, peut-être que ça va nous faire mal, ou d'abandonner des choses que peut-être qu'on est attaché après et de laisser à Dieu, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de souffrir un peu, nous, et de voir notre génération qui suit ne pas avoir à passer par les mêmes chemins que nous et de recevoir ces bénédictions-là. Ça vaut le coup, les amis. Amen. C'est marqué fin. F-I-N. Pour FIM. Amen. Je peux demander au groupe de revenir. Amen. Ce matin, plutôt ce midi, on va juste faire un autre chant d'adoration. Prenez juste un temps dans la présence de Dieu avant de quitter, avant de partir. Laissez-vous bercer une dernière fois par lui dans son amour. Profitez-en. C'est gratuit. Laissez-vous bercer dans sa présence. Et juste vous laisser aimer. Concentrez-vous sur lui. Pas sur ce que vous vivez, mais sur lui. Concentrez-vous sur lui. Et vous allez voir que les choses qui se passent dans vos vies vont se placer. Parce que Dieu est tellement bon. Si vous avez besoin de prière, il va y avoir une équipe qui va être là pour prier pour vous. Sinon, restez un peu dans la présence de Dieu et après, vous pouvez quitter, retourner à la maison. Et cette semaine, de réfléchir sur ce passage et de vraiment prendre... Arrêtez-vous. Prenez un temps dans la présence de Dieu. La vie va vite, les choses vont vite, les responsabilités, il y a plein de trucs qui se passent dans nos vies. On a des horaires chargés. Mais ça ne doit pas être mis de côté. C'est la seule chose qui devrait ne pas être dans notre horaire à chaque jour, d'entrer dans un temps de présence avec Dieu. C'est non négociable. On doit entrer dans sa présence à chaque jour.